Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, on lit dans la vie de Sainte Claire de Montefalco, une sainte qui a vécu de 1275 à 1308, qu'après sa mort, le pape demanda qu'on ouvrît son corps, parce qu'elle avait dit qu'elle avait les insignes de la passion sur son cœur. On a voulu vérifier, on a effectivement trouvé la croix et les insignes de la passion sur son cœur, mais on a trouvé aussi trois petites boules près de son cœur, d'une matière inconnue, et qui avaient cette propriété que chacune pesait autant que les autres, mais si on en prenait deux, on obtenait encore le même poids, et si on les mettait toutes les trois ensemble, on trouvait toujours le même poids. C'était donc là un prodige que le bon Dieu voulut pour que l'on comprenne qu'elle avait la foi dans la Sainte Trinité et que la Sainte Trinité habitait dans son cœur. Sainte Trinité, donc un seul Dieu en trois personnes. Trois personnes ensemble ne font pas plus qu'une seule personne. Chaque personne est Dieu tout entière. Et ce que est dit de Sainte Claire de Montefalco, est certainement vrai aussi de la Sainte Vierge. Le cœur immaculé de Marie possédait certainement en lui aussi la présence de la Sainte Trinité. Nous allons voir cela. Nous verrons ensuite comment la Sainte Vierge a eu un adversaire de cette présence de la Sainte Trinité. Et puis nous terminerons en nous demandant qu'est-ce que nous devons faire, nous, concrètement, pour honorer la Sainte Trinité. La Sainte Vierge, vous le savez, est allée au Temple à l'âge de 3 ans. Elle est restée une bonne douzaine d'années. Et là, elle a médité les Saintes Écritures, elle a chanté les psaumes, et certainement le bon Dieu lui faisait voir déjà dans l'Ancien Testament le mystère de la Sainte Trinité, même si ce mystère était encore obscur, n'était pas clairement dévoilé dans l'Ancien Testament. Cependant, il y a quand même des indices qui, pour une âme de bonne volonté et éclairée du Saint-Esprit, étaient suffisants. Par exemple, ce que nous allons chanter tout à l'heure, avant le canon, Sanctus, 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 c'est tiré du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe a vu une vision de Dieu avec les chérubins qui chantaient ce chant, ce trisagion, trois fois saint, en l'honneur de chacune des personnes de la Sainte Trinité. Et puis dans les psaumes, vous savez que notre Seigneur un jour réduisit au silence les pharisiens qui doutaient de sa divinité en disant « N'avez-vous pas lu dans le psaume ce que David dit, Nixit Dominus Domino Meo, cede ad extris meis ?» Le Seigneur a dit à mon Seigneur « Asseyez-vous à ma droite. » Le Seigneur, c'est-à-dire Dieu Yahvé, a dit à mon Seigneur le Messie, qui est aussi Seigneur, qui est aussi Dieu, asseyez-vous à ma droite. Et l'Esprit Saint est aussi mentionné dans l'Ancien Testament, en particulier, comme on l'a vu pendant la semaine de la Pentecôte, le prophète Ézéchiel avait prophétisé que Dieu enverrait son Esprit pour changer les cœurs, pour habiter dans les cœurs des hommes. Or, seul Dieu peut changer un cœur et habiter dans les cœurs. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est aussi Dieu. Et la Sainte Vierge connaissait aussi, par expérience, on peut dire, le mystère de la charité, car son cœur était tout embrasé d'amour pour Dieu, son cœur immaculé. Aussi, elle comprenait bien, elle avait l'intuition de ce mystère de charité qui habite dans la Sainte Trinité. C'est parce que Dieu est charité, qu'il est bonté, qu'il se diffuse même à l'intérieur de lui-même. Bonum est diffusivum sui, dit l'adage de la philosophie. Le bien aime à se répandre. Oh Dieu qui est infiniment bon, se répand à l'intérieur de lui-même en engendrant un Fils et en faisant procéder un Saint-Esprit. Aussi la Sainte Vierge trouvait bien une correspondance entre cette charité qui habitait dans son cœur et la charité incréée qui est dans le sein de la Sainte Trinité. Toutefois, c'est quand l'ange est venu lui annoncer le mystère de l'incarnation, l'archange Gabriel, que la Sainte Vierge a eu une connaissance tout à fait claire et explicite de ce mystère, la première sur la terre, puisque l'ange lui a dit que l'enfant qui allait naître d'elle serait le Fils de Dieu, et que c'est le Saint-Esprit, le mot est employé explicitement, Spiritum Sanctum, le Saint-Esprit qui réaliserait ce mystère. Aussi la Sainte Vierge, certainement, pendant tout le reste de sa vie, a médité ce mystère et elle aimait écouter son Fils, notre Seigneur, quand il parlait de son Père et qu'il parlait de son Esprit, l'Esprit Saint, qu'il enverrait d'auprès du Père pour être avec les hommes jusqu'à la fin du monde, Esprit Saint, qu'il a envoyé par l'intermédiaire de la Sainte Vierge le jour de la Pentecôte. Aussi, Notre-Dame a certainement vécu ce mystère profondément dans son cœur, mieux encore que la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, dont vous connaissez sans doute la prière qui commence par ces mots « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. » Le bon Dieu a révélé ce mystère parce qu'il veut que nous en vivions, déjà dès ici-bas, mystère de la charité, pour nous préparer à en vivre pendant l'éternité. C'est ça qui fera notre bonheur, c'est de voir face à face cette Sainte Trinité, cette charité de Dieu qui embrasera notre cœur, qui illuminera notre intelligence. Cependant, il y a un adversaire à ce mystère. Cet adversaire, c'est l'ennemi de la Sainte Vierge. Inimicias ponam inter te et mulierem. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il mettait des inimitiés entre le démon et la Sainte Vierge. Le démon a eu une certaine connaissance du mystère de la Sainte Trinité, puisqu'il a eu la foi, il a même eu la charité, il a été créé en état de grâce, comme tous les anges. Cependant, devant ce mystère qui dépassait son intelligence, qu'il ne pouvait pas comprendre, il n'a pas voulu se soumettre, il n'a pas voulu accepter, il n'a pas voulu servir la Sainte Trinité. Aussi, il a été rejeté du ciel, il avait été créé, et il est exclu pour toujours de la contemplation de ce mystère. Aussi, il n'a qu'une envie, qu'un désir, c'est d'entraîner les autres à sa suite pour que eux aussi soient privés de cette vision de la Sainte Trinité. C'est ce qu'il a fait avec un tiers des anges et c'est ce qu'il fait avec les hommes. Il est venu sur la terre pour détourner les hommes de ce chemin, d'aller voir le bon Dieu dans le ciel. Et pour cela, il a notamment inventé des fausses religions, des religions qui rejettent explicitement le mystère de la Sainte Trinité. Et d'abord, la religion juive talmudique, la religion juive actuelle. Car si les Juifs dans l'Ancien Testament se préparaient, étaient préparés à connaître et à croire dans le mystère de la Sainte Trinité, après la venue de notre Seigneur, les Juifs ont inventé une nouvelle religion. Ils ont ajouté au livre saint le Talmud, qui est une négation de la divinité de notre Seigneur et de la Sainte Trinité. Et puis, il y a la religion musulmane, comme vous savez, qui rejette aussi explicitement la Sainte Trinité. Et les musulmans disent 5 fois par jour, ils le répètent plusieurs fois, « Non, il n'y a pas de Trinité, il n'y a qu'un Dieu unique. » Cette unicité de Dieu, pour eux, c'est « Il n'y a qu'une personne en Dieu. » Non seulement le démon a inventé ces fausses religions, qui tient captif une bonne partie des hommes, mais il a même inventé une secte, la secte de la franc-maçonnerie, qui a pour but, on peut dire, de détruire cette foi dans la Sainte Trinité, d'éliminer le culte du vrai Dieu sur la terre. Ils ont remplacé la Sainte Trinité par le grand architecte de l'univers. C'est évidemment autre chose. Ce grand architecte, c'est tout simplement Lucifer lui-même qui veut se faire adorer par les hommes à la place de Dieu. On pourrait dire qu'aujourd'hui, les ennemis, le démon et ses suppôts ont presque gagné. En effet, non seulement ils ont développé ces fausses religions, cette secte de la franc-maçonnerie qui gouverne le monde, mais ils ont même obtenu que la hiérarchie catholique, le pape le premier, ne professe plus la nécessité de croire à la Sainte Trinité. Ça devient un dogme facultatif et que on peut professer si on veut, mais on n'est pas obligé de professer. Vous avez peut-être suivi la visite du pape en Israël, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Le pape a voulu être accompagné d'un rabbin et d'un imam, un représentant de la religion juive talmudique et un musulman. Et on les voit tous les trois devant le mur, ce qui reste du mur du temple, se donnant l'accolade. Et les journaux israéliens, bien entendu, en ont profité pour se moquer de ce trio qu'ils ont appelé la Sainte Trinité. Voilà où on en est aujourd'hui. On se moque de ce mystère. Alors, que devons-nous faire, nous? Nous ne sommes pas à la place du pape. Nous ne pouvons pas faire ce que lui pourrait faire, mais nous pouvons faire quelque chose à notre place. Alors, 3 petites idées, si vous voulez bien, pour honorer la Sainte Trinité et nous mettre à la suite de la Sainte Vierge. D'abord, honorons la Sainte Trinité dans notre cœur. Ce n'est pas un privilège de Sainte Claire de Montefalco ou de la Sainte Vierge. Tous les chrétiens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous venons de l'entendre. Et à ce moment-là, la Sainte Trinité vient habiter dans le cœur du chrétien. Tant que nous sommes en état de grâce, la Sainte Trinité habite dans notre cœur. Donc nous devons avoir le culte de l'état de grâce. Veillez à bien rester en amitié avec le bon Dieu. Et puis nous devons penser souvent à la Sainte Trinité présente au fond de notre cœur. Notre première pensée le matin, en nous réveillant, devrait être pour cette présence de Dieu dans notre âme, comme nos ancêtres aimaient faire en se réveillant. Ils disaient les premiers mots de l'introïte que nous avons entendu tout à l'heure, « Benedicta sit sancta et indivisa trinitas ». Bienheureux soit la sainte et indivise Trinité. Et ils mettaient la main sur leur cœur, ou bien montrer qu'ils croyaient en cette présence de la Sainte Trinité dans leur âme, dans leur cœur. Deuxième conseil, non seulement honorer la Sainte Trinité dans notre âme, intérieurement, mais aussi dans notre corps, car c'est aussi notre corps qui est le temple de la Sainte Trinité, pas seulement notre âme. Et cela doit se voir par notre tenue, notre modestie. Un chrétien ne devrait pas se comporter comme un païen, avoir le respect de son propre corps. Et là aussi, la franc-maçonnerie, inspirée par le démon, a bien prévu de déshonorer les chrétiens et la présence de Dieu en eux par l'immodestie. C'est la secte des francs-maçons spécialement qui répand cette immodestie que nous constatons aujourd'hui tout autour de nous. Et cela était déjà prévu depuis des siècles. Voici ce que la Sainte Vierge a dit à une religieuse à Quito en 1610, il y a plus de 4 siècles. La franc-maçonnerie n'existait pas encore, elle a été fondée en 1717. Eh bien, la Sainte Vierge lui a dit, « Je t'apprends qu'à partir de la fin du 19e siècle et à partir du début de la deuxième moitié du 20e siècle, deuxième moitié du 20e siècle, 1960, le Concile, il y aura une totale corruption des mœurs, car Satan régnera presque complètement au moyen de sectes maçonniques. Le mot y est. Dans ces temps malheureux, il y aura une luxure déchaînée qui entraînera les gens au péché et fera la conquête d'innombrables âmes frivoles qui seront perdues. On ne trouvera presque plus d'innocence chez les enfants, ni de modestie chez les femmes. Dans ce suprême moment de besoin de l'Église, ceux qui devraient parler garderont le silence. » Ceux qui devraient parler garderont le silence. C'est malheureusement le cas de la hiérarchie du clergé et aussi, dans une certaine mesure, même des pères de famille qui ne prennent pas leurs responsabilités pour faire respecter la modestie, la bonne tenue dans leur famille. 2 siècles plus tard, en 1838, la secte maçonnique a commencé à mettre en pratique ce qui avait déjà été prévu par la Sainte Vierge. Et on lit dans une lettre d'un des responsables de la haute vente, c'est une super maçonnerie qui gouvernait la maçonnerie au début du 19e siècle, le plan de la haute vente. Voici par exemple ce que disait ce supérieur de la haute vente. Le catholicisme n'a pas plus peur d'un stylet bien acéré que la monarchie. Mais ces deux bases de l'ordre social peuvent crouler sous la corruption. Ne nous lassons donc jamais de corrompre. Popularisons le vice dans les multitudes. Qu'elles le respirent par les 5 sens. Qu'elles s'en saturent. Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. C'est la corruption en grand que nous avons entreprise. La corruption du peuple par le clergé et du clergé par nous. La corruption qui doit nous conduire à mettre un jour l'Église au tombeau. Ils sont presque arrivés. Puisque nous ne pouvons supprimer la femme, corrompons-la avec l'Église. Corruptio optimi pessima. Vous connaissez son latin. La corruption du meilleur, c'est le pire. Le but est assez beau pour tenter des hommes tels que nous. Le meilleur poignard pour frapper l'Église au cœur, c'est la corruption, à l'œuvre donc jusqu'à la fin. Enfin, un troisième conseil, une troisième manière dont nous pouvons honorer la Sainte Trinité, c'est de lutter directement contre la franc-maçonnerie au moyen de la communion réparatrice, de l'association réparatrice envers la Très Sainte Trinité. Vous avez des explications donc, sur le petit tract qui se trouve sous le portique. Cette association a été inspirée à une pieuse tertiaire franciscaine en janvier 1873. Elle priait à Notre-Dame de Paris devant l'autel de la Sainte Vierge qui avait vu la profanation de Notre-Dame de Paris par le culte de la déesse Raison. Et elle entendit notre Seigneur lui conseiller de fonder une association pour lutter contre la franc-maçonnerie. Voici ce qu'il disait, notre Seigneur. Je te parle des réunions secrètes qui se tiennent en grand nombre et qui font la force du mal le plus ingénieux et le plus puissant pour détruire mon Église et tout ordre social. Ce que je désire, c'est que de bons prêtres, par l'offrande du très saint sacrifice de la messe, fassent réparation à la très sainte Trinité des outrages qui lui sont faits dans ces réunions criminelles. Qu'ils s'unissent trois par trois pour honorer par cette union l'adorable Trinité si indignement outragée. Par cette réparation, je m'engage à anéantir ces sociétés impies. Par la suite, elle a compris que ce n'est pas seulement les prêtres qui devaient s'unir trois par trois, mais que aussi les fidèles pouvaient aussi faire cela, c'est-à-dire s'entendre à trois pour faire le même jour, pas nécessairement au même endroit ni à la même heure, mais le même jour, une communion réparatrice pour réparer les outrages commis contre la Sainte Trinité par les sectes maçonniques. Et le bon Dieu s'est engagé à détruire ces sectes si les catholiques font ça suffisamment. Alors demandons donc à la Sainte Vierge aujourd'hui de nous associer à son culte pour la Sainte Trinité, que nous sachions l'honorer dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, dans notre tenue, et puis aussi, si le bon Dieu nous l'inspire, par ses communions réparatrices pour réparer les outrages commis contre la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.